La France et l'Angleterre ont décidé hier de geler les avoirs de Yahya Sinwar et de certains des principaux responsables de l'organisation terroriste du Hamas. Nous parlons des implications de ces décisions avec Alexandre Delval, il est géopolitologue, spécialiste de l'islamisme et du terrorisme islamiste. Il est au micro de Lucie Gilson.
La France a décrété le gel pour 6 mois des avoirs du chef du mouvement terroriste Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, selon un décret publié mardi au journal officiel. Nous en parlons avec Alexandre Delval, géopolitologue, essayiste et consultant spécialiste du terrorisme islamiste et du monde arabo-musulman. Bonjour Alexandre Delval.
Bonjour.
Tout d'abord, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que ce sont des pratiques habituelles? Quel impact cela peut-il avoir sur Yahya Sinwar et sur cette guerre?
Ça va pas avoir beaucoup d'impact, mais c'est sûr, quand on frappe les gens en portefeuille, y a toujours, comment dirais-je, des conséquences. Mais cet homme qui est le chef du Hamas à Gaza, c'est cette attaque barbare. Il savait très bien qu'il y aurait des conséquences infinies. Il savait très bien que les représailles seraient multiformes. Et donc, je pense qu'il n'a pas tout à fait exclu, de même que la Russie, quand elle a envahi l'Ukraine, elle s'était préparée aux sanctions. Donc, c'est pas ça qui va véritablement freiner le zèle et l'action de ce monsieur qui, comme Mohamed Deif, sont des jusqu'au-boutistes. Contrairement aux dirigeants basés au Qatar, eux, ils supervisent le Hamas militairement et politiquement sur place, et ils sont dans un état de guerre permanent. Et Sinwar lui-même a dit que le but, c'est de provoquer Israël afin qu'il y ait un état de guerre permanent qui permette de faire parler de la cause palestinienne. Donc, on voit le degré de cynisme et aussi de détermination fanatique.
Justement, donc vous évoquez que ça n'aura pas forcément beaucoup d'impact, l'impact escompté. Donc la France a fait de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme une de ses mesures phares dans sa lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant?
Non, non. Si on est vraiment réaliste, si l'Occident voulait cesser d'être hypocrite et pas se donner bonne conscience avec des sanctions, en Ukraine comme à Gaza, il ferait autre chose. En Ukraine, il aurait donné les armes nécessaires, c'est-à-dire une couverture aérienne pour vraiment permettre à l'Ukraine de gagner. Or, c'est pas le cas, et l'Ukraine risque de perdre. Et les sanctions contre la Russie ne servent qu'à donner bonne conscience, puisqu'elles sont contournées largement, et on achète encore du pétrole et du gaz russe par des intermédiaires, et tout le monde le sait. Et pour la Gaza, c'est pareil. Si l'Occident était moins dans des contradictions, eh bien, il y a un État qui possède des clubs de foot et qui investit partout en Occident, qui a des allègements d'impôts en France, voire même des exemptions d'impôts quand il achète et vend des immeubles, un pays qui a des bases américaines sur son sol, le Qatar, qui abrite toute l'élite politique du Hamas, pas uniquement pour libérer des otages, comme on voudrait nous le faire croire, puisque depuis la création même du Hamas, 1987, la famille de l'ancien émir, le père de l'émir actuel de la famille El Thani, déjà était très ami et était le protecteur du cheikh Yassine qui a créé le Hamas. Donc on voit bien que si on voulait vraiment en finir avec cette organisation, on la frapperait dans son siège. Et son siège n'est pas en Iran, il est au Qatar. Son deuxième plus grand financier, juste après l'Iran et le Qatar, c'est le Koweït, encore un ami très proche de l'Occident. Et son quatrième parrain, c'est la Turquie, membre de l'OTAN. Donc si vous voulez, ça fait beaucoup de contradictions qui font qu'on n'a pas vraiment voulu en finir avec le Hamas. Peut-être qu'il y a une prise de conscience, mais si on voulait en finir avec le Hamas, eh bien, les services secrets d'action extérieure israélien auraient été éliminés les dirigeants du Hamas au Qatar, ce qui n'est pas le cas. Et l'Occident, d'ailleurs, en a largement interdit Israël si jamais il était tenté de le faire.
Donc vous parlez en fait des mesures de l'Occident et la France n'a pas été la seule à prendre de telles mesures, l'Angleterre également. Il y a
Oui.
une coopération en fait entre les pays européens. Est-ce que d'autres pays européens sont-ils concernés? L'Union européenne devrait-elle prendre des mesures sur ce sujet?
Encore une fois, c'est de l'hypocrisie parce que, premièrement, les sanctions n'ont jamais arrêté ni les dictateurs, ni les fous, ni les terroristes. Jamais. On n'a pas d'exemple. En tout cas, parmi les gros exemples, on n'en a pas un seul. Que ça soit Hitler, l'Union soviétique, Che Guevara, Carlos, les embargos sur le Soudan, l'Iran, Cuba, la Corée du Nord, rien n'a marché, y compris le Venezuela récemment. Ça n'a jamais marché, ni contre des pays pro-terroristes, Soudan, jadis, etc., ni Iran, etc., ni contre des pays totalitaires. Deuxièmement, le gros de l'argent du Hamas, il vient de trafic, plus ou moins officiel d'ailleurs, notamment de bitcoins et de produits financiers. Rien n'a été fait pour empêcher cela. Et deuxièmement, l'un des gros financements du Hamas, c'est le Qatar. Rien n'est fait pour l'empêcher. Et troisièmement, un des gros financements du Hamas, parce qu'il y a plusieurs sources, c'est les dons des fidèles et les collectes d'argent auprès des organisations des frères musulmans, qui, dans votre pays, comme en France, comme en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique ou en Suède, ou en Hollande, ont pignon sur rue. Les frères musulmans, qui sont la base arrière idéologique et associative du Hamas, collectent chaque année des milliards dans le monde entier, et notamment dans leur plus grand trésor de guerre, les pays occidentaux. Il faut savoir que même le plus grand lobby islamique américain, le CAIR, Council of American Islamic Relations, est structurellement lié aux frères musulmans et a déjà accueilli sur le sol américain des militants du Hamas et même des cadres du Hamas, avait fait un scandale. Donc on voit bien que le Hamas, qui tire une grande partie de ses financements extérieurs, des dons, des fidèles, des réseaux, des mosquées, des centres islamiques qui ont été constitués un peu partout, sachant que les frères musulmans ont une base au Qatar et une base en Suède, puis en Suisse, en Allemagne et en Angleterre. Vous savez que les dirigeants des frères musulmans, depuis quelques années, ils sont plus souvent en Europe qu'au Qatar, ou autant, ou à égalité. Donc c'est quand même assez effrayant. Et si on voulait vraiment tarir le financement du Hamas, donc pas uniquement un ou deux dirigeants, eh bien, il faudrait bannir en Europe toutes les structures des frères musulmans qui prélèvent librement des fonds, et mieux dans certains pays comme la Belgique, l'Allemagne, jadis l'Autriche, là où les imams sont payés par les deniers publics. On a même des pays en Europe qui financent des associations proches des frères musulmans au titre du culte et de la gestion du culte. Donc, si vous voulez, encore une fois, à part l'Autriche qui a pris quelques mesures, et récemment, depuis le 7 octobre, l'Allemagne qui a enfin compris qu'il fallait s'en prendre aux associations qui prélèvent de l'argent pour les frères musulmans, avec l'appui souvent du Qatar Charity et de sa structure en Europe qu'on appelle European Trust, il serait temps qu'on prenne les mesures. Si vous voulez, les mesures qu'il faudrait prendre, on les connaît. Elles ne sont pas prises. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on a confié en partie aux frères musulmans et à l'islamisme turc du Milli Gölüş et à d'autres associations pakistanaises comme le Tablighi, les Barelvi et les Deoband, on a donné en quelque sorte nos musulmans, nos concitoyens, à qui on aurait dû transmettre les lumières, comme à nos enfants. Eh bien, les frères musulmans, c'est la plus grande et la plus influente association qui représente les musulmans et qui encadre les centres islamiques, les écoles islamiques et les mosquées. Et ils prélèvent, je le répète, chaque jour des fonds pour Gaza qui vont directement dans les poches du Hamas. Les frères musulmans ne prélèvent pas pour l'autorité palestinienne. Quand les frères musulmans prélèvent de l'argent pour la Palestine, ça va dans les mains du Hamas. Et ça, ce n'est absolument pas interdit ni empêché aujourd'hui en Europe. Et c'est bien regrettable. Ça montre l'hypocrisie des Européens.
Je voulais savoir qu'est-ce que cela implique concrètement ce gel des avoirs. Quels sont de quels avoirs et biens on parle exactement?
J'aimerais savoir quels avoirs. Alors apparemment, Bercy est renseigné. Bercy doit savoir qu'il y a certains flux qui sont venus de ce côté-là. Et peut-être qu'il y a des prête-noms, probablement des prête-noms de Monsieur Yahya Sinoir, qui ont des biens ou des actions ou des intérêts en France, probablement. Alors la somme exacte, je n'ai pas vu, mais Bruno Le Maire a fait part d'une mesure de gel d'avoir. Je ne vois pas pour l'instant de chiffres, mais ça veut dire que Bercy est au courant. Et là, peut-être qu'on le saura dans quelques jours. Les grands dignitaires palestiniens ont toujours eu des intérêts en France, des villas, des comptes par des prête-noms, des épouses. J'imagine que ça doit être des montages avec des associations, parfois des associations culturelles. Ça peut être aussi des prête-noms, ça peut être des parents, des filles, des tantes, des cousines ou des femmes. Souvent, c'est les femmes. Et là, j'avoue, je n'ai pas les éléments, mais ça veut dire qu'on a trouvé, bien entendu, c'est comme les villas des Russes.
Pour finir, est-ce que vous pensez que les attaques du 7 octobre dernier en Israël ont eu un impact sur l'agenda législatif de la France à ce sujet, au sujet du gel des avoirs, justement?
Moi, ce que je vois pour l'instant, c'est que c'est une affaire de communication. Je ne vois rien de concret, si vous voulez. Je ne vois pas les sommes. Je vois un gel pour 6 mois. C'est même hallucinant. On se dit en quoi un gel pour 6 mois va avoir quelque effet. Et je vois juste que c'est quelque chose, voilà, contre 6 individus du côté de l'ombre. Pareil, extrêmement gras, extrêmement, extrêmement vague. Moi, j'ai l'impression que, si vous voulez, on est tellement imbriqué que ça doit être extrêmement compliqué de geler totalement des avoirs. Mais je ne vois pas du tout l'incidence. Moi, je n'ai pas vu d'incidence politique sur le législatif en France de ces mesures. J'ai l'impression que c'est des mesures, surtout quand on gèle pour 6 mois, ça ne veut rien dire. On gèle ou on gèle pas. Ça veut dire quoi? Dans 6 mois, Yahya Sinwar va devenir gentil?
Vous pensez que c'est un peu léger?
Ben, c'est plus que léger. Pour l'instant, ça ressemble à un effet d'annonce. Alors, peut-être que. Mais un gel de 6 mois n'a aucune signification concrète. Donc, j'ai bien peur que le maire, comme M. Macron, ça soit un peu de la communication. Mais d'un point de vue politique, il est certain que la compromission des autorités françaises depuis longtemps, mais surtout depuis l'époque Sarkozy, qui n'a jamais été annulée depuis, avec les frères musulmans est terrible. Les frères musulmans qui, je le répète, sont la matrice du Hamas et leur grand soutien financier et idéologique à l'extérieur, les frères musulmans ont énormément de prérogatives en Europe avec leur parrain, le Qatar, qui est derrière eux. Nos politiques, effectivement, sont inquiets des conséquences que ça puisse avoir. Ils ont peur de la montée des populistes, de l'extrême droite, ou tout simplement le gouvernement veut montrer qu'il agit, alors qu'en fait, concrètement, on n'a absolument rien vu. Si vous voulez, le jour où on voudra interdire et rendre absolument banni le Hamas et les frères musulmans en Europe, on n'aura qu'une seule solution, interdire purement et simplement toutes les associations des frères musulmans et geler les avoirs de toutes les structures qui les financent. Mais je ne vois pas du tout la même chose se profiler en France, en tout cas pour le moment.
Eh bien, Alexandre Duval, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, essayiste et consultant spécialiste du terrorisme islamiste et du monde arabo-musulman. Très bonne journée et merci beaucoup.
Merci, merci beaucoup.